Le 17 mai dernier, des collégiens et lycéens venus de toute la Creuse se sont rassemblés pour le prix littéraire Les Imaginaires à Guéret. Une partie d'entre eux, membres du club radio à Saint-Vaury, s'est prêtée au jeu de l'interview avec les auteurs.
Bonjour à tous, bienvenue à la 7e édition du prix des Imaginaires. Nous sommes les élèves du club radio RPSV et du club lecture du collège Louis Durand. Nous allons interviewer les auteurs des romans du prix, ainsi qu'une illustratrice et qu'un auteur de BD. Bonne émission.
Bonjour, aujourd'hui on va interviewer Sylvie Edery, qui est une membre du jury des Imaginaires. Bonjour madame.
Bonjour.
Qu'avez-vous fait avant d'être juge aux Imaginaires?
Alors, avant d'être juge au prix des Imaginaires, j'étais documentaliste au collège de Bonnat. Et donc j'ai toujours participé à ce prix, hein, en tant que documentaliste. Je venais avec des groupes depuis que le prix existe. Et c'est la première année où je suis membre du jury.
Vous étiez avant organisatrice de ce prix. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, être membre du jury ou organisatrice?
Bah, les deux fonctions m'ont beaucoup plu. Je dois dire que cette année, dans la mesure où je suis membre du jury, j'ai le temps d'apprécier davantage tous les travaux des élèves et de voir vraiment en détail tout ce qui a été réalisé. Les autres années, comme moi-même, je m'occupais d'un groupe, je venais avec des élèves, je n'avais pas toujours le temps de bien voir tout ce qui avait pu être, toutes les créations qui avaient pu être réalisées.
En tant qu'organisatrice, est-ce que quelque chose vous a marqué? Un livre, un stand, des personnes?
Ah, bonne question. ce qui m'a marqué. Le livre qui peut-être m'a plu le plus, c'est Félicratie. Je crois que c'est un livre qui faisait partie de la sélection il y a 2 ans. Et c'est difficile, j'ai du mal à répondre parce qu'il y a tellement de choses qui ont pu me plaire. Et puis surtout le fait de préparer ce prix. Ça, c'était vraiment toujours très intéressant de retrouver les autres organisatrices. On s'est toujours fait une joie de préparer ce prix. Mais vraiment, c'est difficile de répondre parce que je crois que tout a pu me plaire.
Vu que vous êtes à la retraite, est-ce que vous êtes membre du jury aujourd'hui par bénévolat?
Oui, bien absolument, oui. Bah, de toute façon, j'avais toujours prévu de continuer à suivre le prix des Imaginaires. Même si je n'étais pas membre du jury, je crois que je serais venue aujourd'hui voir tout ce qui a pu être préparé par les équipes.
Quelles étaient vos missions quand vous étiez organisatrice?
Alors, mes missions, il y en avait plusieurs. Je me souviens que je préparais les badges pour le jury et pour les participants. On lit des livres aussi, hein, pour choisir les sélections des années suivantes. Il faut prendre contact aussi avec des associations. Il y a plein d'activités diverses et variées à réaliser, que tout le monde se partage.
Comment gérez-vous le stress si vous en avez en tant que membre du jury?
Le stress en tant que membre du jury, peut-être que j'espère ne bien voir, bien apprécier le travail des équipes, hein, ce qu'ils ont pu imaginer. Et je dois dire que franchement, je suis toujours agréablement surprise par ce que les équipes peuvent faire. Vraiment. Mais il n'y a pas vraiment de stress. Il y a surtout beaucoup de plaisir.
Est-ce que vous avez lu les 4 livres? Et si oui, est-ce que vous avez une préférence pour un des livres?
Alors, j'ai lu les 4 livres. Je crois que j'ai surtout aimé Ariane.
Pour finir, est-ce que cette journée des Imaginaires qui a lieu chaque année vous fait toujours autant plaisir?
Absolument, absolument. J'étais vraiment ce matin très contente de rejoindre ici le prix des Imaginaires. C'est un beau moment pour moi.
Merci pour vos réponses. C'était Sophie et Léa du Club Radio de Saint-Vaury. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et je suis vraiment très flattée d'avoir pu répondre à vos questions. Merci beaucoup.
De rien.
Bonjour, nous sommes avec Madame Ramirez, enseignante au Collège de Auzance, qui participe au Prix des Imaginaires depuis quelques années. Bonjour Madame, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, alors je suis Céline Ramirez, je suis professeure documentaliste donc au Collège d'Auzance et de Crau, mais je participe au Prix Les Imaginaires depuis mon arrivée au Collège d'Auzance donc en 2017, à la demande de Christelle Astier qui était sur mon poste avant que j'arrive, quelques années avant que j'arrive, et le prix venait juste d'être créé. Elle était une des organisatrices et elle m'a proposé et je me suis dit que c'était une super opportunité.
Comme nous l'avons dit, vous êtes ici avec vos élèves pour participer au prix des imaginaires. Depuis combien d'années participez-vous à ce prix ?
Du coup, ça doit être la 7e année, si je sais compter. Je ne suis pas certaine de savoir compter à ce moment de la journée-là, je dois dire.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce prix ?
Alors, ce qui me plaît dans ce prix, c'est la sélection en général plaît beaucoup aux élèves. Ça me permet de faire de l'incitation à la lecture auprès d'élèves volontaires dont certains, étonnamment, n'étaient pas forcément attirés par la lecture de base. C'est quelque chose qui me surprend chaque année, d'avoir que des élèves hyper lecteurs viennent, ça ne m'étonne pas, mais que des élèves qui, bof, et en fait, quand je leur présente la sélection, il y a un livre qui leur plaît et ils ont envie de venir juste pour ce livre, ça c'est chouette. Et puis évidemment, l'opportunité de pouvoir rencontrer des auteurs, ça c'est vraiment assez exceptionnel. Donc, et puis l'ambiance, après l'avoir fait une première fois, je me suis dit ça avait été difficile toute cette année-là, mais alors l'ambiance était tellement géniale que chaque année j'ai dit bon allez on recommence.
Vous avez beaucoup d'élèves qui participent au prix et si oui, est-ce qu'ils sont motivés ?
Alors, ça a varié, c'est très très rigolo, parce que les années précédentes ont commencé toujours à une vingtaine d'élèves, et puis au fur et à mesure, ils se rendaient compte de la difficulté, et je finissais à 12 élèves. Cette année, on a commencé à 12 élèves, et là j'en ai 15. C'est la première année où j'ai gagné des élèves. Et oui, ils sont motivés, oui. Oui, oui, très motivés.
Cette année, il y a 4 romans sélectionnés. Combien de romans sont défendus par vos élèves ?
Il y a 3 romans qui sont défendus par mes élèves et pas mon chouchou. Ça fait 2 ans que mon chouchou à moi, le livre que je préfère, mes élèves, non, ils le choisissent pas. À mon grand regret, mais c'est pas grave parce que vraiment, eux, ils ont vraiment une passion pour leur livre. Hein. C'est vraiment drôle.
Avez-vous lu les 4 romans et avez-vous une préférence du coup pour un des 4 romans ?
Alors ben oui, j'ai lu les 4 romans, je les lis toujours avant de les présenter aux élèves et mon préféré moi c'était Ariadné, j'ai vraiment adoré, moi j'adore la mythologie, j'ai adoré le point de vue de l'auteur sur l'histoire et c'est pour ça que j'étais un peu déçue que mes élèves le choisissent pas mais c'est pas grave.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne chance à vos élèves.
Eh ben merci pour eux, merci à vous.
Bonjour Madame Philippe. En regardant votre biographie sur Internet, nous avons vu que vous étiez illustratrice depuis 2010. Pouvez-vous nous raconter votre parcours ?
Alors, j'ai fait des études d'art. Vos questions sont... Enfin, vous avez très bien parlé, en tout cas. j'ai fait un bac STI art appliqué et un BTS communication visuelle. À la base, c'est pour être graphiste, donc plutôt faire de la mise en page, des logos, des trucs comme ça. Mais moi, ce que j'aimais, c'était dessiner. Et en plus de ça, les 2 boulots que j'ai eus, je suis tombée sur des patrons pas gentils du tout. Donc du coup, j'ai tout arrêté et j'ai osé me lancer. Il faut savoir que pendant 3 ans, c'était un peu dur financièrement. Et après, à force, j'ai commencé à me faire connaître.
Vous faites de l'aquarelle, de l'acrylique, mais aussi des albums jeunesse. Est-ce qu'il y a une activité que vous préférez ?
J'ai des périodes. Je sais que tenir un crayon et des feutres, j'ai toujours adoré ça. Après, comme je travaillais pour des maisons d'édition, les maisons d'édition, ils ont tendance à nous dire « Non, là, cette illustration, faut pas qu'elle soit comme ça, faut qu'elle soit plus comme ça. » Et du coup, quand on a fait une aquarelle, on peut pas effacer peut pas changer. Alors que sur ordinateur, je peux travailler avec des calques. Donc j'ai plusieurs, voilà, je peux plus facilement, si on dit non, ça je sais pas la bonne couleur, et ben sur ordinateur je peux faire et ça me change de couleur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait du numérique, mais je préfère quand même faire de l'aquarelle.
Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ?
Depuis que je suis toute petite, je dessine. Moi, le fait de dessiner, ça me permettait d'être dans un monde imaginaire. Parce que je n'étais pas très heureuse quand j'étais enfant. Et du coup, grâce à mes dessins, je pouvais me raconter des tonnes d'histoires.
Comment se passe la journée d'une illustratrice ?
Eh bien, ce qui est cool, c'est que je travaille chez moi. Donc, bon, avant d'avoir des enfants, je pouvais me réveiller un peu quand je voulais. Ce qui est plus le cas. Mais sinon, je dessine. Le matin, je me réveille, j'allume mon ordi quand je fais sur ordinateur. Sinon, je me mets à mon bureau avec mes crayons pour dessiner. Et je fais ça toute la journée.
Est-ce que vous aimez la littérature de l'imaginaire ?
Oui, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup les albums jeunesse en général, parce que j'aime bien les illustrations. Est-ce que tu peux me dire un peu plus ce que tu entends par imaginaire ? Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est toujours imaginaire, non ? À part un documentaire, mais tous les livres, qu'ils soient jeunesse, qu'ils soient adultes, on est souvent dans l'imaginaire.
Oui, bah oui, enfin, je sais pas.
Bon, c'est pour ça. Non, mais je voulais savoir si vous aviez un truc précis en tête. Parce que sinon, oui, j'aime beaucoup.
Est-ce qu'on vous a déjà proposé d'illustrer une couverture de roman ?
Oui, mais je l'ai fait surtout pour des particuliers. Donc, tu as les maisons d'édition et puis tu as aussi des gens qui éditent leurs propres livres. Enfin, en gros, ils écrivent leurs livres et puis bah, c'est eux qui vont l'imprimer, c'est eux qui vont le vendre. Et c'est souvent ces personnes-là qui sont venues vers moi pour que je leur fasse leur couverture.
Est-ce que vous avez vu les travaux des élèves ? Si oui, est-ce que vous avez une préférence pour un stand ?
Alors oui, j'ai regardé. Ils sont tous magnifiques. J'ai beaucoup aimé les filles qui ont fait... ça fait sous un grand carton. Ça fait un paysage en pâte à sel. J'ai trouvé magnifique. J'ai beaucoup aimé l'idée des enfants qui ont fait faire une petite roue, tu tournes la petite roue et puis ils te lisent un début d'histoire. Et le coup du puzzle à faire en un minimum de temps, très rigolo.
Merci Laure Félipon d'avoir répondu à nos questions. Et si vous êtes curieux, allez voir les travaux de Laure sur son blog.
Merci beaucoup les filles. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Oui, alors moi je suis Aurélien Morinière, je suis dessinateur de bande dessinée depuis 2001, donc ça fait 23 ans. J'ai fait, je ne sais plus, je crois que c'est 26, 27 BD, 28, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai fait des bandes dessinées jeunesse, science-fiction, roman graphique, historique. Médiéval fantastique dans plein de genres chez plusieurs éditeurs. Les dernières BD parues, c'était Visage, ce que nous sommes chez Glénat, qui est une épopée familiale et historique. Et puis L'Homme Book, qui est un polar fantastique qui se passe en Limousin.
Vous avez fait des études dans le domaine artistique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours universitaire ?
Alors, j'ai commencé les études artistiques avant l'université. J'ai commencé dès le lycée, moi. C'était une filière qui n'existe plus. Ça s'appelait le BT, un brevet de technicien. Donc, c'était avant le BTS. Et c'était la filière dessinateur-maquettiste. Donc, dessinateur, on voit ce que c'est. Maquettiste, c'est ça implique la mise en page pour des magazines, pour des publicités, des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est pas purement du dessin aussi, il y a aussi une application pratique. Donc là, j'ai fait une sorte de bac, c'est l'équivalent d'un bac art appliqué en fait. Et ensuite, je suis allé à l'université à Paris pour faire un master de d'art plastique et sciences de l'art. C'est un peu pompeux, mais voilà. J'ai fait mon master autour du Land Art, qui est un mouvement artistique des années 60, qui est beaucoup lié à la nature aussi. Et d'ailleurs, en Limousin, enfin en Creuse, à Vassivière, on a le Centre international d'art et du paysage qui représente beaucoup d'œuvres de Land Art.
Vous êtes auteur en bande dessinée et vous travaillez parfois en collaboration avec d'autres auteurs. Comment se passent ces collaborations? Est-ce que c'est difficile de travailler à deux sur le même BD?
Alors, je travaille, j'ai toujours travaillé en collaboration avec des scénaristes. Donc, moi, j'écris pas. Enfin, j'écris pour d'autres choses, des poèmes, des choses comme ça. Mais les scénarios de BD, les scénarii de BD, je m'en occupe pas. Donc, c'est assez simple de collaborer puisque il y a une personne qui va écrire l'histoire, qui va découper l'histoire en planches et en cases à l'écrit. Et moi, je m'occupe de la mise en scène et toute la partie graphique. Donc, c'est assez sectorisé, on ne se marche pas dessus, quoi. Et de toute façon, il y a toujours des échanges, des allers-retours. S'il y a des choses qui me semblent perfectibles ou que j'ai des remarques à faire sur la mise en scène et sur le texte, je peux en parler. Et effectivement, le scénariste ou la scénariste va me faire des retours sur mes dessins pour corriger des choses, s'il y a des choses qui ne lui conviennent pas. Donc, il y a toujours des allers-retours, mais les deux postes, entre guillemets, sont bien séparés et avec des compétences qui sont très sectorisées. Quoi.
Vous avez fait plusieurs collaborations avec Tarek. Pourquoi avoir fait des contre-visités comme Les Trois Petits Cochons, les sept Nains et Demi?
Parce qu'en fait, les contes, c'est d'abord des traditions orales, donc il n'y a rien de figé. Ils ont beaucoup évolué au fil de leur histoire littéraire. Et en fait, ça nous semblait... très intéressant aussi de partir sur cette histoire de l'oralité et de mutation de ces histoires pour en donner une lecture modernisée avec une vision sur l'actualité ou sur de l'époque voilà, pour défricher un peu ce domaine qui est régulièrement défriché dans la littérature jeunesse, hein. Globalement, il y a énormément d'exemples de romans ou de bandes dessinées ou de livres illustrés qui reprennent les contes comme ils sont libres de droit et que voilà, donc c'est dans le domaine public, on peut en faire un peu ce qu'on veut et ce qui est une belle source d'inspiration. Ouais.
Vous êtes dessinateur de BD, mais vous êtes aussi maquettiste et peintre. Alors, quelle activité préférez-vous et que vous apporte ces différentes activités?
Alors, chaque activité nourrit l'autre. Il n'y a pas d'activité que je préfère, mais mon activité principale, ça reste la bande dessinée. Donc, c'est ça qui me fait vivre. Après, j'ai besoin pour alimenter ma créativité de faire d'autres choses. Donc la peinture, la photographie, l'illustration, et puis en dehors de ça, ça peut être faire de la musique, aller me balader dans les bois ou des choses comme ça. Donc tout ça, ça participe d'un même mouvement qui nourrit la créativité. C'est difficile de séparer, c'est des noms pour des activités qui semblent différentes, mais tout ça, je le regroupe dans un même panier en fait. C'est quelque chose qui s'auto-alimente et qui se nourrit. C'est des activités qui sont interdépendantes.
Vous avez dessiné plusieurs livres. Lequel avez-vous le plus aimé à faire?
Oh là là, souvent c'est le dernier qu'on fait. pour l'instant, je pense que j'ai... le visage, la dernière parution, Visage ce que nous sommes, qui est une fresque historique, était très intense à réaliser parce que des personnages très forts auxquels je me suis attaché parce que je les ai suivis sur plusieurs décennies, dans le sens où l'histoire commence début du 20e siècle et puis finit en 1954, donc ça fait quand même une grosse cinquantaine d'années où on suit les personnages, donc on s'y attache, on les fait évoluer, on les fait mûrir, vieillir, et donc forcément ça crée un affect particulier. En revanche, il y a L'Homme Book et la BD que je réalise actuellement, qui s'appelle L'Enfant Démon, qui est une sorte de suite de L'Homme Book. J'y suis particulièrement attaché parce que ça se passe en Limousin, donc en Creuse, entre Limoges et Poitou de Mille Vaches. Et forcément, il y a un lien, il y a une affection très spéciale par rapport à ce livre et à cet univers-là, qui est aussi, aussi lié au fait que cette histoire, ce bouquin est né à partir d'illustrations que j'avais réalisées. Mon scénariste s'est appuyé sur des images que j'avais réalisées au préalable pour écrire une histoire. Donc d'habitude, Les scénaristes écrivent un script et un synopsis, et ensuite le dessinateur ou la dessinatrice va illustrer cette histoire. Là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que le scénariste s'est appuyé sur des images qu'il avait réalisées pour en faire des scènes, pour structurer une histoire. Donc c'est comme s'il avait illustré mes dessins par une histoire. Donc c'était un cadeau qui m'a fait grand plaisir et qui fait que je suis très attaché à ce bouquin.
Donc aujourd'hui, nous sommes à un prix de littérature de l'imaginaire. Et donc, aimez-vous la littérature de l'imaginaire? Si oui, laquelle?
Alors oui, bah, c'est un peu mon centre d'intérêt principal, pas forcément la littérature, mais l'imaginaire, forcément, c'est ce qui nourrit mon travail. C'est pas un univers que j'ai exploré beaucoup en bande dessinée, voire très peu, et pas tellement en illustration, mais je crois que je suis particulièrement attiré par la science-fiction. Et voilà, tout ce qui est lié à la science globalement, et puis voilà, des auteurs comme Dan Simmons ou Isaac Asimov, enfin des gens comme ça, j'ai toujours été fasciné par ça, et voilà, peut-être qu'un jour je ferai une BD dans ce domaine-là, mais voilà, c'est vraiment le genre qui me plaît le plus, je pense. Après, c'est difficile de hiérarchiser, hein, j'aime un tas de choses dans la littérature d'imaginaire.
Est-ce qu'on vous a déjà demandé d'illustrer une couverture d'un roman ?
Oui. Ça m'est arrivé récemment. Là, j'en ai terminé une illustration avant-hier.
Dans votre dernier BD, Visage que nous sommes, le thème est la guerre. Pourquoi ce sujet ?
Alors, le thème n'est pas vraiment la guerre, en vrai. Non, le contexte, c'est la guerre, c'est-à-dire les deux guerres mondiales du XXe siècle. Mais en fait, le thème, c'est l'identité, c'est-à-dire comment on construit son identité dans un monde en guerre, et comment on se singularise par rapport à un mouvement global qui va te pousser vers un patriotisme ou des idéologies qui ne sont pas les tiennes. On parle notamment de certains mouvements de résistance. Étudiant dans l'Allemagne nazie, donc qui faisait des distributions de tracts, qui s'était opposé au régime d'Hitler, et ce genre de phénomène là démontre quand même une indépendance et un choix. Ce que nous sommes relève aussi du choix, même sous la contrainte, on peut arriver à faire des choix qui sont individuels. C'est plus compliqué, mais voilà. Donc c'est un peu ce thème-là, comment on se définit en fonction de ces contraintes-là, et aussi comment avec les mêmes contraintes, nos enfants vont faire des choix qui sont identiques aux nôtres ou différents des nôtres, et comment ils vont se définir aussi par rapport à leur filiation.
Et vous pouvez nous dire quand sort le prochain tome ?
Alors, ça y est, la série est finie, donc elle est sortie, le quatrième et dernier tome est sorti en janvier. Donc la série est complète en 4 tomes.
Merci d'avoir répondu à mes questions, et n'oubliez pas que la BD Visage de ceux que nous sommes, édité chez Decla, c'est Glénat, se trouve dans toutes les librairies.
Merci à vous.
Bonjour, moi je m'appelle Manoa.
Bonjour, nous appelions Mélissa et Elisa.
Enchantée.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de Jolane Bertrand, auteur de La Où règnent les baleines, paru aux éditions L'École des loisirs. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Oui, donc bonjour, moi je m'appelle Jolane Bertrand, je suis l'auteur de La Où règnent les baleines à l'École des loisirs, et voilà, donc je suis auteur de science-fiction, de fantasy, de fantastique, en jeunesse et en adulte, je suis les deux, et voilà. Et La Où règnent les baleines, c'est mon deuxième roman à l'École des loisirs, et mon 1, 2, 3, 4, 5, 6e roman publié.
D'accord. Quelles études avez-vous fait ?
Alors je fais des études qui n'ont rien à voir, j'ai fait une licence d'anglais en me disant que je ferais de la traduction ou de l'interprétariat en attendant de réussir à vivre de ma plume. Après bon, il s'est avéré que la traduction c'est presque autant de travail que l'écriture de roman, donc du coup j'ai jamais eu l'occasion d'en faire au final, mais voilà, moi j'ai fait de l'anglais à la fac.
Qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Qui ?
Qui ou quoi,
ouais, ben moi je lisais énormément quand j'étais enfant, Et je me rappelle qu'une fois, j'ai écrit à un auteur que j'aimais beaucoup pour lui dire que je voulais être écrivain parce que je voulais faire ressentir aux gens ce que son livre m'avait fait ressentir à moi, en fait. Voilà. Donc ça va être surtout ça, en fait. J'ai lu des livres qui m'ont beaucoup, beaucoup fait rêver et qui m'ont beaucoup permis de m'échapper aussi, parfois, quand j'en avais besoin, et qui m'ont vraiment ouvert des portes sur d'autres univers, etc., dans lesquels je voulais vivre. Et je crois que c'est Pierre Bottero qui avait dit en interview ou en introduction d'un de ses livres que, quand il était enfant, comme moi, il lisait beaucoup de livres de fantasy, et il rêvait de pouvoir y aller, il était très malheureux de ne pas pouvoir y aller, et le jour où il s'est mis à écrire, il s'est aperçu qu'il avait trouvé la porte magique qui permettait d'y aller, en fait. Donc c'est assez vrai, je suis assez d'accord avec lui.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'écrire des science-fiction, et d'où vous vient l'inspiration pour écrire vos livres?
Ce qui me plaît, alors, c'est de pouvoir tout imaginer, en fait, et c'est de réfléchir à d'autres possibilités de société, de vivre ensemble, de vie tout simplement, et d'intégration, ça c'est ce que je préfère. Et après, où est-ce que je trouve mon inspiration? Bah, principalement dans la fiction qui a été faite avant moi, en fait. Dans les séries et les films que je regarde, les livres et les BD que je lis, même les jeux vidéo. Parfois c'est dans les rêves que je fais, bon, pas toujours, mais ça m'arrive de me réveiller et de me dire oh, tiens, c'est intéressant ce que je viens de rêver, faudrait que je note. Et des fois ça finit dans un livre. Et sinon, ouais, beaucoup des discussions que j'ai avec les autres aussi. Souvent, je vais avoir des très longues discussions avec des amis auteurs et autrices, ou lecteurs et lectrices, et subitement je vais me dire mais tiens, ce qu'on vient de dire là, c'est hyper intéressant, il y aurait une histoire à raconter autour de ça. Donc voilà.
Est-ce que vous connaissez le prix des imaginaires? Avez-vous déjà vu les travaux des élèves? Qu'en pensez-vous?
Alors, je connaissais pas le prix avant d'être invité ici, mais du coup, ouais, j'ai commencé à faire le tour de la salle. J'ai pas vu tout le monde encore, mais c'est super. Je savais pas du tout qu'il allait y avoir des maquettes, etc., et des œuvres d'art, et c'est impressionnant le talent que vous avez et l'énergie que vous y avez mis, parce que certains des trucs que vous avez fait, ça a dû vous prendre du temps, de la minutie, donc c'est vraiment cool, puis c'est vraiment flatteur. Ça veut dire que le livre a dû vraiment vous plaire pour que vous fassiez ce travail, donc c'est, ouais, c'est vraiment, c'est très très beau, très impressionnant et très émouvant.
Mettez-vous un peu de vous dans vos personnages?
Toujours. Parfois je le fais exprès, parfois non. Parfois je me rends compte après, dans mon lire, je me dis tiens, mais ça c'est moi ça. Mais je mets toujours un petit peu de moi dans mes personnages. Ma première trilogie de post-apocalyptique qui est sortie en 2019. Il y a un petit moment en tout cas. Il y a 4 personnages principaux et je me suis rendu compte en lisant le bouquin qu'en fait chacun des 4 c'était un aspect de ma personnalité. En fait. Donc oui, toujours. Je pense qu'on le fait tous quand on est auteur.
Est-ce que vous vous inspirez aussi de personnes que vous connaissez pour les personnages?
Aussi, alors La Ouraine les baleines, c'est un livre que j'ai écrit pour ma nièce. Et du coup, le personnage de Juan, alors ce n'est pas ma nièce, mais c'est un outil que j'utilise pour dire quelque chose à ma nièce. Donc du coup, je lui ai donné certains des traits de caractère de ma nièce, de personnalité. Après, c'était jamais exactement elle, c'était plus souvent des exagérations, on va dire. J'ai pris des traits qu'elle a et je les ai exagérés au maximum. Après, il y a aussi des choses qui ne lui correspondent pas, qui sont autres que ce qu'elle ferait à la place de Juan. Mais en tout cas, ouais, quand j'écris un livre spécifiquement pour un de mes neveux ou une de mes nièces, c'est vraiment... Le personnage principal est souvent construit exprès pour lui parler à cet enfant-là spécifiquement, donc forcément ils ont des choses en commun, mais je le fais pour d'autres personnages aussi, le personnage de dans la Ouraine les baleines, la vieille pêcheuse, inspirée d'une amie à moi aussi, donc...
Comment choisissez-vous les noms des personnages?
Ça c'est plus compliqué, alors en général, souvent ils me viennent tout seuls. Quand je trouve pas, ce que je fais c'est que je donne un nom générique au hasard, Balthazar, pour que je puisse écrire l'histoire sans être bloqué sur comment on va s'appeler celui-là. Une fois sur deux, le nom générique finit par rester, en fait, parce que je me suis habitué à l'appeler comme ça, donc du coup je garde le nom, et des fois le nom va me venir plus tard, voilà, et si vraiment j'ai pas d'idée, j'ai rien qui convient, bah en général je vais piquer des noms dans les gens que je connais, je fais ça aussi, je fais attention à pas donner les noms de n'importe qui à n'importe qui, parce que sinon je vais me faire engueuler après, mais voilà, ça m'arrive de shipper des noms comme ça.
Avant de commencer à écrire, faites-vous une fiche détaillée pour chaque personnage pour expliquer leur caractère, leur habitude ou...
Alors je le faisais à une époque, maintenant j'avoue je le fais plus trop parce que ça prend du temps mine de rien, et je préfère consacrer un maximum de temps à l'écriture du roman. Après des fois j'en ai besoin, mais en général je fais pas une fiche pour décrire le personnage, je fais plus une fiche pour décrire la place du personnage dans l'histoire. Donc ça va, parfois ça va être résumer l'histoire de son point de vue, en fait, pour savoir ce qui se passe de son côté, parler de ce qui lui tient à cœur émotionnellement, de son passé, etc., pour avoir une meilleure vue d'ensemble de qui est ce personnage et comment ce personnage va se comporter par rapport aux autres et dans les situations dans lesquelles je vais le mettre.
Quel est votre personnage préféré?
Dans La Ruine des baleines?
Oui.
C'est dur comme question. Je les aime bien tous, ce sont mes enfants. Je ne peux pas choisir mes enfants préférés. Non, je sais pas, j'aime bien la vieille pêcheuse, j'aime bien son caractère.
Comment avez-vous choisi le titre du livre ?
Alors, c'est un livre que j'ai écrit plusieurs fois, parce que la première fois que je l'ai écrit, il y a pas mal d'années de ça, j'étais adolescent et c'était pas... Le personnage principal était un garçon, c'était un peu de l'écriture de colère, là, parce que mon frère m'embêtait beaucoup et je rêvais qu'il se fasse exiler pour toutes les vacances d'été en punition parce qu'il avait été pas sympa avec moi. Et à l'époque, ça s'appelait La Tour de Guet. Là, quand je l'ai réécrit plusieurs années plus tard pour le publier à l'école des loisirs, je me suis dit que ça convenait pas trop comme texte parce que ça faisait très fantasy. C'est pas un livre de fantasy, c'est plus du fantastique. Et ça correspondait pas à générale du livre. Et après, je me souviens plus à quel moment je me suis dit La Ouraine, les baleines, ce serait bien, mais quand j'ai commencé à donner plus de place aux baleines dans l'histoire et à créer du lien entre Rohan et Kierzik à cause du fait qu'ils ont tous les deux été harcelés pour différentes raisons, etc., c'est là que je me suis dit que je voulais un titre qui représentait davantage ce lien entre eux plutôt que l'ambiance générale de l'histoire. Et puis La Ouraine, les baleines, c'est un bon euphémisme pour dire l'océan, je trouvais ça poétique. Donc voilà.
Est-ce que vous prévoyez d'écrire d'autres livres ou une suite à ce livre ?
Peut-être. J'ai pas de plan précis pour le moment, mais en tout cas, j'ai des idées pour faire d'autres tomes, ou en tout cas un autre tome, donc peut-être que je le ferai. Si je trouve le temps, si j'ai envie de me proposer dans cet univers, je le ferai.
Bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Et nous vous rappelons que le livre La où règne les baleines, édité à l'école des loisirs, est en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci et bonne chance pour le prix.
Merci beaucoup, merci pour vos questions.
Bonjour, c'est Cécile Guizot, nous sommes Armand Laveau et
Axel Ribeurel,
des élèves participant au prix des imaginaires. Donc, voilà. Première question, j'ai vu dans votre biographie qu'avant de vous lancer dans l'écriture, vous aviez fait des études en psychologie. Pourquoi avez-vous décidé de changer de voie et qu'est-ce qui vous a décidé à changer ?
Alors en effet, donc, j'ai obtenu mon diplôme de psychologue. Et comme c'est un secteur assez bouché, c'est vrai que c'est pas facile de trouver un poste. Et du coup, je faisais des petits boulots. Et à côté, j'écrivais un petit peu. Je faisais aussi un peu de bénévolat pour des toutes petites maisons d'édition. Et en fait, finalement, j'ai monté une petite maison d'édition associative. Et comme ça a bien marché, avec mon mari, on a décidé de transformer ça en société et aussi d'apporter plus de temps à l'écriture pour vraiment être dans le métier du livre. Donc ça s'est fait un peu naturellement.
Écrivez-vous d'autres types de livres que la romance, des romans jeunesse, fantastiques, et si oui, quel genre
Alors j'écris surtout du fantastique, surtout du young adulte, ou des romans pour adultes. Après, j'ai fait un peu des albums, mais non, c'est vrai que je fais surtout du fantastique.
Êtes-vous très actif sur vos forums ?
Sur les réseaux sociaux ?
Oui.
Alors j'ai un compte Instagram où j'essaye de mettre un peu tout ce qui a rapport avec mon actualité littéraire. Après, je ne suis pas du tout sur TikTok. C'est vrai que c'est important d'être sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien la photographie, donc Instagram, ça me convient. Mais c'est vrai que je ne suis pas forcément à l'aise avec la vidéo. Donc voilà, je ne veux pas me forcer à faire un format qui ne me convient pas. Quoi.
En regardant sur Internet, j'ai remarqué que vous aviez plusieurs activités, dont graphiste. Avez-vous fait des études de graphiste ou est-ce que vous avez pris ça?
Alors en fait, c'est quand j'ai commencé un peu à travailler avec des petites structures. J'ai fait quelques couvertures. J'avais aussi fait des couvertures pour des groupes de métal. Et quand j'ai monté ma maison d'édition, j'ai fait quelques couvertures également. Après, là j'en fais beaucoup moins. Ça m'arrive de temps en temps pour édition du Chat Noir. Mais c'est vrai que maintenant je me concentre sur... soit ma casquette d'éditrice, soit ma casquette traductrice, soit celle d'autrice, en fait.
Est-ce que c'est vous qui avez imaginé la couverture pour Lulabi ?
Alors oui, là, en fait, j'avais vraiment cette vision en tête et j'ai fait un petit croquis que j'ai donné à l'illustratrice Mina M. Et du coup, elle a suivi mes directives, on va dire, Et voilà, la couverture telle qu'elle est, c'est vraiment ce que j'avais dans mon cerveau.
Donc maintenant, je vais laisser le micro donc à ma collègue pour vous poser des questions plus sur le livre.
Pour les auditeurs qui nous écoutent, pouvez-vous nous faire un résumé de votre roman Loulabi, paru aux éditions du Chat Noir ?
Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est attirée par sa voisine Blanche et qui aime écrire des histoires horrifiques. Et un jour, ses parents vont découvrir ça en tombant sur ses carnets. Et du coup, ils vont décider de l'interner dans un asile, parce que ça se passe dans les années 20, et à cette époque, c'était pas vraiment bien vu, on va dire. Et dans cet asile, elle va rencontrer deux autres jeunes femmes. Donc une qui est là parce qu'elle a une malformation depuis toute petite, et une autre qui est là parce que son mari l'a enfermée, parce qu'elle gênait, parce qu'elle avait des idées, on va dire, féministes et militantes, et que ça lui plaisait pas. Et la nuit, elle va entendre une berceuse, elle va suivre ce chant, et elle va arriver dans un espèce de jardin magique. Donc je peux pas en dire plus, parce que c'est une novella, c'est un format très court, donc on peut facilement spoiler, mais voilà.
Votre livre Loulabi aborde des sujets très présents dans les années 20, aux États-Unis. Pourquoi avoir choisi cette période pour votre roman ?
Alors, à la base, j'avais mon histoire, qui était l'histoire de cette jeune fille qu'on internerait en asile. Et j'avais pas encore d'idée très précise sur les dates. Et en fait, j'ai fait des recherches sur l'histoire de la psychiatrie et l'histoire aussi de comment considérer les femmes et de la maladie féminine, on va dire. Et quand je suis tombée sur cet article sur le choc à l'insuline qu'on trouve dans l'histoire, c'est ça qui m'a convaincue de placer le scénario dans les années 20.
Pourquoi vouliez-vous écrire un livre qui aborde la psychiatrie, l'homosexualité, qui sont des thèmes difficiles à aborder ?
Alors la psychiatrie, comme j'ai fait des études de psychologue, forcément c'est un sujet qui m'intéresse. Tout ce qui est psychologie, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse, que ce soit en tant que lectrice ou en tant qu'autrice. J'aime bien développer les personnages et aborder la santé mentale, ce genre de choses. Et j'ai oublié la question.
Pourquoi avoir choisi de...
Le féminisme, c'est ça ?
Non, l'homosexualité.
L'homosexualité, pardon. Ben, en fait, j'aime bien lire en fait, des romans LGBT. J'aime bien les personnages LGBT, mais aussi tous les personnages issus de minorités. En fait, j'aime bien quand on les met en avant. Et là, j'avais vraiment envie d'écrire une romance lesbienne, en fait. C'était mon inspiration, on va dire. Et en plus, c'était un des motifs pour être interné à l'époque. Donc en fait, voilà, c'est pour ça.
L'histoire de Loulabi se passe aux États-Unis. Pourquoi avoir choisi ce pays ?
Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une explication logique et rationnelle, mais c'est vrai que quand j'imagine les histoires, ça se passe soit aux États-Unis, soit ça peut se passer en France. Et c'est vrai que cette histoire-là... dans mon imaginaire, dans mon esprit, je le situais aux USA. Et en plus, après, quand j'ai fait mes recherches, j'ai accentué justement mes recherches sur comment ça se passait dans les asiles aux États-Unis. Et voilà, c'est un peu ensuite la suite, un enchaînement logique en fait.
Comment vous faites pour écrire un roman sur les asiles aux États-Unis dans les années 20 ? Êtes-vous allé là-bas ?
Alors, non. Alors déjà, je ne suis jamais allée aux États-Unis. Donc, j'ai lu des romans, des essais qui étaient écrits en anglais. J'ai aussi lu des témoignages de l'époque, enfin, pas tout à fait les années 20, mais début 1900, des témoignages de personnes qui s'étaient fait interner. Il y a aussi une journaliste connue, je ne voudrais pas déformer son nom, je crois que c'est Enid Blyte, qui était une journaliste un peu avant-gardiste, parce que il n'y a pas forcément beaucoup de journalistes femmes, qui avaient fait exprès en fait, de se faire passer pour folle, pour être internée, et pour pouvoir justement décrire les conditions de vie des femmes. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de sources littéraires écrites en fait, pour essayer d'être le plus précise et le plus juste possible en fait, dans mon histoire.
Dans votre livre, l'émancipation féminine est beaucoup mise en avant. Ce sujet vous tient-il à cœur ?
Oui, c'est vrai que dès mon premier roman, c'est quelque chose que j'ai mis en avant. Le côté... le pouvoir féminin, en quelque sorte, quel que soit ce pouvoir, et les liens entre les femmes, le côté sororité, en fait. C'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans toutes mes histoires.
Dans Lulabi, nous retrouvons deux personnages à fort caractère. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Jo. Vous identifiez-vous à une d'elles ?
Souvent, je pense que dans mes histoires, chaque personnage a peut-être un petit bout qui me ressemble, mais j'ai jamais de personnage voilà, qui me ressemble complètement ou à qui je peux vraiment m'identifier à 100%. C'est vrai que je suis pas aussi militante que Jo, j'ai pas autant de caractère. Je suis peut-être plus comme Hazel qui est quand même un peu plus réservée, on va dire. Voilà.
En conclusion, votre roman parle du pouvoir des femmes qui est impressionnant. Êtes-vous féministe ?
Oui, tout à fait.
Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et n'oubliez pas que Lulabi de la maison d'édition Chat Noir est d'enfant dans toutes les bonnes librairies.
Bonjour, nous sommes Camille et Céline du Club Radio du Collège Louis Durand de Saint-Bourré et nous allons vous poser quelques questions.
Bah, déjà, pourquoi est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Alors, moi je m'appelle Chloé Jeannot, donc je suis en terminale.
Je m'appelle Denis Nolan, je suis en terminale dans la même classe que elle.
Et on est au lycée Jean Favard.
Depuis quand participez-vous à ce prix littéraire ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce prix ?
Moi, ça fait la deuxième année que je participe, donc depuis l'année dernière. Est-ce qui me plaît ? En fait, c'est de lire, puis après d'imaginer un stand comme ce qu'on fait aujourd'hui.
Ouais, c'est à peu près la même chose, c'est la deuxième année aussi pour moi. Même si l'année dernière, je suis venue en cours d'année. Et j'aime vraiment le fait qu'on puisse en fait créer notre stand avec notre propre imagination. Et puis, les livres sont vraiment chouettes à lire. Donc, voilà.
Quel livre vous défendez et pourquoi ? Et une autre question, qu'est-ce que vous imaginez pour faire la promotion de votre roman préféré ?
Alors, le livre qu'on défend, c'est Le Labaille de Cécile Guillot. Ce qui nous a plu dans, en tout cas ce qui m'a plu dans ce livre, c'est vraiment le côté un peu plus mystérieux, les côtés comme ça. Et pour notre standard, en fait, on a imaginé en fait tout l'univers du livre. Entre, par exemple, la nature, les papillons qu'on voit assez souvent, les violettes qui ont une importance assez capitale dans le livre.
Notre stand évoque les cinq sens, donc le visuel. Parce que du coup notre stand il y a plein de feuillages, de mousse, ce qui rappelle le côté un peu mystérieux et intrigant de l'histoire. Donc on a le toucher, on a fait un memory, on a aussi le goût, on a des gâteaux, des bonbons qui rappellent le livre. On a aussi l'ouïe avec une berceuse, parce que Lulabai en français ça veut dire berceuse. Qui reste toujours un peu dans l'intrigue, donc ça fait un peu peur, on peut dire. Et puis, je crois que j'ai tout dit.
L'année prochaine, est-ce que vous pensez participer de nouveau aux Imaginaires ?
Alors, le prix, c'est ouvert que normalement jusqu'à la seconde.
Si on pouvait, si on le referait,
voilà,
mais c'est... malheureusement, on ne peut pas vu qu'on est en terminale.
C'est bien ça.
D'accord, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne journée. Et nous vous souhaitons bonne chance.
Merci.
Merci.